tous et bienvenue autour de votre grande table. Ce que le Covid fait à la science à l'occasion de la fête de la science, c'est une journée spéciale que France Culture vous propose tout au long de la journée sur son antenne. Après les matins et avant le temps du débat, donc, la grande table des idées aujourd'hui, quel rôle joue la science en démocratie? Il espère un rôle de vigie. Pierre Papon, l'ancien directeur du CNRS, est notre invité à l'occasion de la parution de son ouvrage « La démocratie a-t-elle besoin de science ?» aux éditions du CNRS. Mais d'abord, casquette à l'endroit, casquette à l'envers, c'est le nouveau directeur de la Villa Médicis et l'ancien directeur des rencontres de la photographie d'Arles qui est notre invité, Sam Sturdze. Que font au temps et à la création les résidences d'artistes? Quelle coopération européenne? Quel dynamisme pour la culture en France? Nous en parlerons ensemble jusqu'à midi et demi. Bienvenue à tous autour de votre grande table sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Onction.
Chers pensionnaires, chers membres du personnel, je vous rappelle que le directeur vous attendra demain après-midi dans ses appartements pour une réunion d'accueil et de bienvenue.
Nous sommes tous là pour vous aider. Les raisons d'être de cet endroit, c'est vous.
À notre année ici, alors.
J'ai lu tous vos livres. Je connais bien votre œuvre. Je vous envie.
Moi, cette année, je ne fais rien. J'écris pas une ligne. Je dors et je te regarde travailler.
Extrait de L'Indompté, le premier long métrage de Caroline Deruas, une ancienne pensionnaire de la Villa Médicis. Bonjour Sam Sturdze.
Bonjour.
Quels sont les premiers mots que vous avez délivrés à vos pensionnaires et à toutes les personnes, hommes et femmes, qui travaillent, qui vivent dans cette Villa Médicis à votre arrivée?
Un grand bienvenue à tous, et en fait c'était eux qui m'accueillaient, mais je reconnais avec émotion cet extrait de film où on entendait le directeur s'adresser par haut-parleur à l'ensemble des résidents et de l'équipe. Cette vision un peu désuète de la Villa Médicis où le directeur en son palais recevrait de temps en temps. On est bel et bien au 21e siècle dans une résidence de création, mais placée dans le plus bel endroit du monde, avec la volonté d'être une vraie start-up de la culture, difficile à concilier finalement.
Ah, pourtant cette vision désuète, elle a quand même la dent dure, et vous allez devoir probablement aussi tenter de changer l'image de la Villa Médicis, cette belle endormie, hein, comme on l'a souvent raconté et décrite. Vous êtes vous-même un ancien pensionnaire, hein, de la maison de cette villa, dans la section cinéma, c'était il y a 13 ans. Qu'est-ce que vous aviez trouvé là-bas quand vous y étiez?
J'y ai trouvé un formidable temps pour penser, réfléchir, travailler de manière libre et désintéressée. La plupart des résidences d'artistes ou de créateurs sont conditionnées à une production, à un résultat final. Finalement, une résidence de recherche où on vous donne du temps et où on vous loge dans un espace plutôt sympathique, dans un lieu plutôt beau et agréable, est une chance et un luxe aujourd'hui qu'on trouve nulle part ailleurs. Et donc pendant un an, j'ai travaillé et préparé un projet autour de Fellini, mais je pense véritablement que ça m'a ressourcé et re-rempli mes tiroirs pour les 10 années à venir.
Vous avez quand même travaillé, rassurez-moi, quand vous étiez là-bas. Oui.
Alors voilà.
Est-ce que vous avez produit quelque chose? Parce que c'est ce qu'on attend aussi, non? Il paraît qu'il y a des dossiers, une sélection, ce qu'on voit très bien d'ailleurs en ouverture du film L'Indompté.
Voilà un autre mythe auquel il faudrait tordre le cou, de penser que pensionnaire à la Villa Médicis, c'est des vacances dorées offertes par l'État pour passer un an merveilleux en Italie. Oui, j'ai travaillé. J'ai travaillé plus que je ne m'y attendais. Je suis rentré sur un projet sur Fellini qui a donné lieu à une exposition présentée au Jeu de Paume, à une rétrospective de films présentée à la Cinémathèque française. L'exposition a tourné dans une quinzaine de villes en Europe, et on l'a accompagné de 4 ou 5 livres et de 2 DVD. Et quand je suis rentré, je n'avais aucune idée de ce que je ferais exactement. D'ailleurs, c'est ce champ libre qui m'a permis de développer autant de projets. Mais c'est assez marrant de voir que dans le monde académique, On n'a aucun problème avec l'idée d'une année sabbatique. Aux États-Unis, les facs investissent sur leurs professeurs et si à un moment, ils prennent pas une année sabbatique, une année off pour réfléchir à leur recherche, on s'inquiète même de l'avancée de leur parcours. Pourquoi les créateurs n'auraient pas besoin, eux aussi, à un moment, d'un temps d'arrêt dans leur parcours, d'une année pour pouvoir réfléchir sur cette création? Les Romains appelaient ça l'osium, ce loisir oisif. Alors loisir oisif, bien sûr, aujourd'hui, c'est pas une notion complètement à la mode, mais du temps libre et désintéressé pour réfléchir. L'osium, c'est l'opposé du négocium. Et c'est vrai qu'on est dans une société de marchandisation à outrance, de production et de productiviste. Et que la plupart du temps, quand on met l'artiste dans une résidence, on s'attend à ce qu'il produisent une œuvre à la fin, on veut d'ailleurs qu'il la produise et qu'il l'expose, ça veut dire qu'il va passer tout son temps à la produire, ou éventuellement qu'il vienne donner des cours dans les écoles en contrepartie du temps qu'il aurait passé en résidence. Formidable que les artistes donnent des cours aux enfants et qu'ils apprennent à dessiner ou qu'ils apprennent l'art, mais c'est pas complètement le job de l'artiste, ça peut être un petit plus. Donc nous, à la Villa Médicis, on les accueille pendant un an et on leur fout la paix. Pendant un an, on les laisse réfléchir, penser, travailler dans toutes les directions, et puis à un moment, on retravaille avec eux pour les mettre aussi en orbite et connecter leur réseau pour qu'ils puissent s'exprimer dans la discipline qui est la leur.
Et vous, Sam Stourdier, est-ce que cette direction, ce fauteuil, ce poste que vous avez accepté, vous le voyez aussi comme un temps suspendu, un temps d'oisiveté, un temps de réflexion dans votre parcours? Parce que, pour dire vrai, quand on a tous entendu votre nom cité pour prendre le relais dans cette maison qui depuis 2 ans vivait un temps d'intérim après le départ de Muriel Mayette-Holtz qui n'avait pas été reconduite en 2018, on s'est dit mais comment est-ce qu'il peut quitter un lieu aussi effervescent, aussi bouillonnant que sont les rencontres de la photographie à Arles, que vous avez mené là par ailleurs, pour aller se retirer à Rome, dans cette belle et somptueuse Villa Médicis?
Alors, chère Olivia Gisbert, oui, j'aurais aimé penser à une retraite, mais non, là, ça sera pas pour tout de suite, on attendra encore un peu. Effectivement, j'ai pleuré à l'idée de quitter Arles, j'ai aimé les 6 années que j'ai passées à la tête d'Arles et le projet global qu'on a pu y mener, la manière dont les artistes, à chaque fois qu'on leur proposait d'exposer dans un cloître, dans une église, répondait présent en étant content qu'on les sorte un peu de la white box. J'ai aimé cette rencontre avec le public, avec la ville. On est aujourd'hui à 1 400 000 entrées dans les expositions à Arles et c'est la première fois qu'en tant qu'acteur culturel, j'ai vu la prise directe sur l'économie locale que pouvait avoir la culture, comment le festival irradie culturellement, mais aussi socialement et économiquement la ville, le temps de la saison. Pour autant, voilà, il est des pages qu'il faut savoir tourner. C'est difficile de partir avant qu'il soit trop tard.
D'autant plus difficile de partir, rappelons-le, après une édition qui n'a pas pu avoir lieu, une dernière, ce qu'aurait été la vôtre, Sam Stourdier, cette année, pour cause d'épidémie et de contraintes de crise sanitaire.
Absolument. L'édition 2020 qu'on avait annoncée et délivrée à la presse le 8 mars n'a eu le droit qu'à une conférence de presse et le programme des 35 expositions qui devaient avoir lieu cet été est resté, comme d'autres manifestations culturelles, dans les cartons. Mais ça, c'était une très belle aventure. Arles, c'est aussi une machine à laver. Vous faites 8 ans de la programmation d'un musée chaque année. Et le risque, c'est d'arriver à un moment à tout simplement ne plus rien avoir à dire. J'espère que j'en étais encore un peu loin, mais encore une fois, mieux vaut savoir partir trop tôt que trop tard. Et il n'y a pas beaucoup d'aventures qui auraient pu me faire rêver. Celle de la Villa Médicis, non pas pour sa retraite dorée, mais pour le projet culturel qu'il peut proposer, m'enthousiasme au plus haut point. On peut être triste de quitter un lieu et très heureux d'arriver dans un autre.
Alors on y retourne à la Villa Médicis avec Fellini, puisque c'était l'objet de votre travail quand vous y étiez, vous, comme pensionnaire. Aujourd'hui donc, vous êtes Sam Sturze, le nouveau directeur de la Villa Médicis. Fellini, qui fait partie des fantômes hein, de cette villa, qui était un ami des lieux et de ceux qui l'ont dirigé, ce lieu a-t-il écrit et dit un jour, c'est l'impression de remonter dans le temps, dans le flot continu de la mémoire. La Villa Médicis, c'est vraiment une affaire d'atmosphère, hein, d'après ses anciens pensionnaires. On se souvient de Hervé Guibert, plutôt amer, inventant une géographie dans un roman, L'Incognito, établissant une frontière entre la prestigieuse partie nommée Neuilly et Sarcelles, de l'autre côté du jardin, où sont logés les artistes. Ou encore la romancière Lise Charles, auteur en cette rentrée d'un roman épistolaire que vous avez forcément lu, dont l'anti-héros est Octave Milton, écrivain pensionnaire de la Villa Médicis. Le roman s'appelle La Demoiselle à cœur ouvert, chez P.O.L. Il est paru. Élise Charles en parlait au micro de Par les temps qui courent de Marie Richeux.
En fait, quand je suis arrivée, moi, j'ai paniqué. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? C'est à la fois tellement beau et je ne savais plus du tout ce que je venais faire là. J'avais fait un projet, mais je n'étais pas du tout sûre que j'arriverais à l'accomplir. Je me suis sentie très seule au milieu de cette sorte de bulle enchantée. Et en même temps, c'est vrai qu'il y avait un contraste assez rigolo, mais ça me plaisait plutôt, entre la beauté extraordinaire des lieux et le côté très trivial des pavillons en fait où on était logé, auquel finalement je me suis attachée infiniment au cours de l'année.
Voilà, et dans ce roman, elle balance un peu quand même hein, sur les autres pensionnaires, même si c'est sous la forme de la fiction et sur la direction à ce moment-là, gentiment. Elle raconte aussi vraiment ce qu'est l'esprit de ce lieu et la manière dont son personnage fictif y évolue, se cherche sa plume, son ton. Vous risquez de figurer un jour dans un roman, dans un film ou dans une fresque, hein, Sam Sturze. Sachez-le et prenez garde.
J'en prends le risque.
Ce contraste qu'elle évoque, vous le ressentez dans ce lieu? Est-ce qu'il y a l'idée d'essayer de le maintenir ou de réconcilier un peu ces deux facettes?
Non, on le perçoit à chaque instant. D'ailleurs, la Villa Médicis est faite d'un certain nombre de contradictions, à commencer par son architecture elle-même, cette façade austère sur la ville, et vous pénétrez dans les lieux et vous rentrez dans un jardin Renaissance, et à l'intérieur, cette flamboyante façade Renaissance. Et effectivement, l'antagonisme entre un lieu patrimonial dont certains voudraient pousser sa muséification et le fait que des résidents vivent dans ce lieu, dans ce domaine, hein, c'est 6 hectares la Villa Médicis, la partie plus moderne dont parlent les pensionnaires qu'ils ont dénommés après Hervé Guibert Sarcelles, ce sont des pavillons des années 50 signés de l'architecte Carlu qui à l'époque a été lui-même pensionnaire à la Villa Médicis, qui font une soixantaine de mètres carrés et qui n'ont pas alors les fastes du palais, mais qui sont très sympathiques aussi. Mais c'est vrai que c'est intimidant de venir passer un an dans ce lieu chargé d'histoire et qu'on vous laisse face à vous-même, face à vos doutes. Elle l'exprime très très bien, cette notion de doute, et elle est essentielle. Ça serait même d'ailleurs inquiétant qu'un pensionnaire arrive et que pendant un an, il sache exactement ce qu'il va faire. On veut le mettre dans cette condition de chercher, de tenter, d'avancer des hypothèses, de douter, de pouvoir se tromper, d'essayer.
Mais il y a aussi des projets concrets qui en ressortent, et vous revenez justement de Bordeaux, Sam Sturze, où deux anciens pensionnaires, deux architectes, puisqu'on parle d'architecture, ont présenté aussi un projet architectural qu'ils avaient pensé et développé là-bas. Ce pavillon proto-habitat, est-ce qu'il s'inspire de cette architecture de la Villa Médicis? C'est-à-dire, est-ce que le lieu, même dans la contradiction, a imbibé, a aussi imprégné un peu ce projet qui est résolument tourné vers l'avenir, pour le coup, ou est-ce que vous pensez que ça n'a rien à voir, qu'en fait on arrive aussi à faire abstraction de là où on est pour penser ce qu'on veut.
Ils le racontaient eux-mêmes extrêmement bien, Flavien Menu et Frédéric Bachelard, qui ont été pensionnaires pendant un an, et leur pavillon qu'ils ont construit à l'issue de leur résidence et qu'ils appellent Villa Médicis Mobile, est à voir dans le jardin public de Bordeaux jusqu'à la fin de l'année. Ils l'ont exprimé eux-mêmes en disant que d'avoir pu vivre dans un lieu et leur lieu de résidence était magnifique, un magnifique atelier qui s'appelle Carolus Durand sur le site, les a complètement inspirés pour structurer l'intérieur de ce pavillon mobile, construit en bois français par les filières aquitaines, complètement démontable, complètement écologique. On a des résidents qu'on accueille pendant un an, mais qui ne sont pas déconnectés du monde. Ils sont branchés directement sur les problématiques actuelles. Ils travaillent sur les notions d'écologie, sur la question du genre, sur les enjeux de durabilité. Ils cherchent et parfois ils réalisent. À la fin de leur séjour à la Villa Médicis, ils avaient réalisé la maquette, le prototype de ce pavillon, grâce aux contacts qu'ils ont su noué avec les filières bois et la région aquitaine, on a pu les aider à réaliser le premier prototype de ce pavillon mobile. Donc, passer de la réflexion à la réalisation, jouer de ces allers-retours n'est pas incompatible. Et quand vous regardez d'ailleurs sur les 30 dernières années, le nombre de gens du milieu de la culture, artistes ou professionnels de l'art qui sont passés par la Villa Médicis et pour qui la Villa Médicis a eu un véritable impact. Je le dis moi-même, en toute simplicité, la Villa Médicis a changé ma vie. On est finalement assez nombreux dans ce cas-là. Mais la Villa Médicis n'est pas très bonne pour structurer le réseau de ses anciens et faire savoir ce qu'elle fait.
C'est juste une histoire de communication ou
Un tout petit peu plus, mais il y a un peu de communication dans tout ça.
En tout cas, ce qui est intéressant à la villa, et ce que vous allez, j'imagine, essayer de préserver, c'est cet aspect très pluridisciplinaire. Là, on parlait des architectes, des romanciers qui sont passés, mais dans la promotion actuelle, j'ai pas la liste sous les yeux, mais je l'ai regardé, c'est assez impressionnant de voir la différence des pratiques artistiques, des tendances, des courants qui s'y retrouvent aujourd'hui. Vous allez garder ça, c'est vraiment l'écrin ou la particularité, la singularité pour vous de cette maison.
C'est essentiel et je pense que ça vaudrait peut-être la peine de prendre 30 secondes pour rappeler ce qu'est la Villa Médicis. C'est une résidence, mais ce n'est pas exclusivement une résidence d'artistes. Elle est effectivement pluridisciplinaire. Il y a trois missions liées à la Villa Médicis, l'accueil des pensionnaires, la valorisation du patrimoine et un lieu de rayonnement. La plupart des gens connaissent la Villa Médicis parce que quand ils sont venus à Rome, ils ont pu la visiter. Ils accèdent à cette mission de rayonnement et de valorisation du patrimoine. Ils ne voient pas les 16 pensionnaires et les résidences courtes qui ont lieu tout au long de l'année.
Non, parce qu'ils sont planqués au fond du jardin, justement.
Ils sont planqués au fond du jardin et on essaye de les laisser tranquilles parce qu'ils ne sont pas des animaux du zoo à qui on rend visite. Parmi ces 16 pensionnaires, il y a une vingtaine de disciplines. Et cette pluridisciplinarité, elle est essentielle. Il y a des écrivains, il y a des cinéastes, il y a des historiens de l'art, des artistes, des photographes, des scénographes, des architectes. On a même une section art culinaire et depuis peu une section générale qui s'appelle autres disciplines. Donc on peut à peu près accueillir tout le monde. Et c'est aussi cette confrontation de gens plutôt calés dans leur domaine. À chaque fois, les projets qu'ils portent sont des projets extrêmement pointus, mais leur rencontre entre eux pendant un an, le fait qu'ils vont vivre sur le même site, qu'ils vont pouvoir échanger, discuter, parfois même travailler entre eux, produit aussi des choses très, très intéressantes.
Et peut-être aussi une future pensionnaire, musicienne et chanteuse, elle a son groupe, ils viendraient à trois, c'est Léopoldine HH.
Psychotropique. les plages bleues à non plus finir. Des amoureux qui s'aiment, jamais ne tanguent ni ne chavirent. Au fond des yeux, tout ce qu'il faut pour me guérir. Partir, partir, oh, juste partir. Psycho, psychotropique, il fait si chaud, oh, je n'ai plus mal. Psycho, psychotropique, sur tes îlots, oh, et sous ta voile. Psychotropical. Les nuages noirs seront repoussés vers le sud. Loin des désespoirs, la météo indique un interlude. Un scintillement dresse entre nos solitudes. Un sourire à ta gloire, ô déesse, oh, incertitude. Psycho, psychotropique, il fait si chaud. Je n'ai plus mal. Psycho, psychotropique, sur tes îlots, oh, et sous ta voile. Psychotropical.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Après avoir repris le répertoire de Barbara, la comédienne et chanteuse, elle est dans ce trio Léopoldine HH. Ils seront en concert cet automne avant la sortie d'un nouvel album, La Lumière Particulière. Ce sera son titre, le deuxième après Blumen im Topf. Et ce sera en janvier prochain. D'ici là, des concerts après-demain à Pithiviers, le 15 à Porte-les-Valences, le 16 à Privas, etc. On parlait de ce qu'est être directeur et vous voilà désormais le nouveau directeur de la Villa Médicis, Sam Sturdze. La Villa, elle a eu des directeurs mythiques, Ingres et surtout Balthus, resté 17 ans à la tête de cette maison. Que faire de tous ces héritages? Avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter les mots d'un autre de vos prédécesseurs, c'est Richard Peduzzi. Il a eu cette formule à propos de la Villa dans les colonnes du Figaro et c'est rigolo parce que cette phrase se retrouve aussi en une du site et vous met, j'imagine, une pression complètement dingue. Il ne suffit pas d'avoir un projet pour s'improviser directeur de la villa, il faut en comprendre le fonctionnement, les exigences, les contraintes. On apprend à devenir directeur. Voilà, Richard Peduzzi, c'était en 2008, ces paroles-là. À sa sortie, il était et il est encore le scénographe de beaucoup de grands metteurs en scène. Ça a été le cas avec Patrice Chéreau. Et en 2002, il était nommé directeur de la villa. On l'écoute.
Les murs parlent, évidemment. Il y a un cardinal qui était venu me voir à Rome, comme ça, qui était sous la loggia avec moi, la villa, et qui m'avait dit, ces murs sont imbibés, comme ça, des artistes, de prières, de tout. J'ai dit, oui, ils sont sûrement imbibés. Ouais. Et c'est vrai, quand je regardais, je sortais le matin de la Villa Médicis et que je voyais la façon dont elle était construite, dont l'architecte avait construit tout ça, il l'a vraiment construite, pensée, comme les ingénieurs et les architectes de la Renaissance faisaient, c'est-à-dire avec des proportions humaines. Une chaise, c'est un temple, et une colonne, on sent que ça part de la tête, du corps et de l'âme de quelqu'un.
Voilà, c'est ces proportions humaines qu'il va falloir redécouvrir et remettre en avant, Sam Sturdze.
En tous les cas, c'est bien l'humain qu'il va falloir remettre au cœur du projet. Le lieu est assez impressionnant et la parole de Richard Peduzzi, qui a été un formidable directeur et qui a remeublé la villa, qui l'a fait revivre, mais Balthus l'a été aussi avant lui. Tout ça met une certaine pression. J'accueillais récemment quelqu'un qui, regardant la vue sublime par la fenêtre, me disait « Ah oui, en regardant, on voit qu'il est là et qu'il existe. » Vous savez, on a à la villa la vue juste sur le Vatican en face. Donc voilà, difficile de réfléchir, de créer sereinement dans ce lieu. Pour autant, il y a un projet qui est un projet formidable, une équipe qui est là et qui travaille au service des créateurs depuis des années. Une équipe très étrange qui est composée de gens sous contrat français, de gens sous contrat italien, des Italiens qui suivent exactement tout ce qui se passe à Paris, puisque la tutelle de la Villa Médicis est le ministère de la Culture. C'est le seul établissement public du ministère de la Culture à l'étranger. Tout ça donne un lieu un peu particulier où on est à la fois un acteur culturel de la scène romaine tout en étant un établissement public français. Mais aujourd'hui, cette forme de métissage, c'est bien au cœur des préoccupations aussi des artistes. Et le projet qui doit animer la Villa Médicis demain doit être un projet tourné vers l'Europe, tourné vers la francophonie, tourné vers la Méditerranée. Il y a 350 ans, il y avait ce grand tour qui emmenait des artistes tout autour de la Méditerranée. Aujourd'hui, un certain nombre de gens font ce même trajet, mais dans l'autre sens, et parmi eux, des artistes ou des hommes ou des femmes qui veulent une autre vie.
Et que vous pourriez accueillir ?
En tous les cas, la Villa Médicis doit être au cœur des sujets de société.
Tourner vers l'Europe, ça veut dire pas simplement sur les expositions, mais aussi sur le profil, l'origine des pensionnaires, les nationalités.
Sur l'origine des pensionnaires, sur l'origine des partenariats, il faut pouvoir sortir un peu, descendre de sa tour d'ivoire. La Villa Médicis, parfois, a été un peu drapée de son prestige. Et il faut qu'elle soit beaucoup plus en réseau. En fait, la Villa Médicis, c'est un formidable laboratoire de recherche dans un certain nombre de disciplines variées. Et il faut qu'elle noue beaucoup plus de relations avec ses pairs, avec ses homologues, qu'ils soient italiens, français ou européens.
Merci beaucoup, Sam Strozzi. Vous allez pouvoir, j'espère, bientôt paraphraser Fellini. Rome m'a créé, alors à mon tour j'ai créé Rome. Et dire la Villa Médicis m'a créé, alors à mon tour j'ai créé la Villa Médicis. Ça, ce sera pour bientôt. On souhaite bonne chance à votre successeur, à la tête des rencontres de la photographie internationale d'Arles, qui va prendre le relais avec ce festival qui se porte très bien jusqu'ici. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci.
Merci.